1 Pierre chapitre 5 et le verset 1er. Nous sommes toujours dans ce thème de l'équilibre de la foi et combien c'est important en 2018 d'avoir une foi équilibrée, une foi qui ne balance pas trop d'un côté ou pas trop de l'autre, mais qui reste droite, qui reste sur le chemin étroit, large et spacieux, le chemin qui conduit à la perdition. Mais c'est pas ce chemin-là qu'on va emprunter, c'est le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 5 verset 1er, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et voici donc ces recommandations. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui ? Aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, on pourrait traduire « soyez équilibré ». Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Est-ce que vous voulez que ce dernier verset soit une réalité dans votre vie ou vous voulez juste le répéter ce matin? Être perfectionné, être affermi, être fortifié. Et tout cela n'est que la conséquence de ceux qui précèdent. Alors on voit d'abord un apôtre Pierre qui est là et qui parle justement de soumission, d'intersoumission, et il parle particulièrement aux anciens en disant que lui-même en tant qu'apôtre, il est malgré tout un ancien parmi eux, mais il les invite à pas dominer, à pas montrer leur autorité en écrasant les gens comme on le voit malheureusement tellement et tellement de fois autour de nous. J'ai eu moi-même un chef qui, pour montrer son leadership, il écrasait les gens, il les rabaissait. Et même s'ils avaient fait quelque chose de bien, soit quand ils avaient fait quelque chose de bien, ils se l'appropriaient la victoire, et quand ils faisaient quelque chose de mal, ils les descendaient encore plus. Ça, c'est pas la façon dont Dieu veut qu'on gère les choses. Quand on a quelqu'un sous notre responsabilité, et tous d'une manière ou d'une autre, on a quelqu'un sous notre responsabilité, si ce n'est peut-être la première personne, c'est nous-mêmes, mais... Quand on est parent, c'est nos enfants. Quand on est patron, c'est nos employés, etc., etc. Il y a toutes sortes de façons d'avoir des responsabilités, mais ce n'est pas de manière écrasante qu'on doit montrer notre leadership. C'est avec amour, avec intersoumission, avec bien sûr qu'il faut du respect, on est d'accord, mais avec dévouement. Il est dit qu'il faut qu'on soit les modèles. Et c'est tellement mieux qu'un patron qui dit les choses, qui donne les ordres, mais qui montre l'exemple, que quelqu'un qui nous dit de faire les choses que lui ne fait pas. Comprenez-le? Et on voit le lien avec ce qui a été dit la semaine dernière. La soumission doit être équilibrée avec l'autorité. L'autorité, si nous voulons être des personnes qui parlent de la part de Dieu, nous devons être soumis à Dieu d'abord. Le centenier, vous vous souvenez? A expliqué à Jésus, moi j'ai des gardes qui sont sous mes ordres, je dis à l'un viens, il vient, je dis à l'autre va, il va. J'ai une autorité, mais pourquoi j'ai cette autorité? Parce que je suis moi-même soumis à César et aux généraux qui sont au-dessus. Et l'autorité que je représente, c'est l'autorité de César. Nous sommes sur terre, nous avons l'autorité du Seigneur. Mais avec cette autorité-là, elle doit se reconnaître en nous parce que nous sommes aussi des personnes soumises les uns aux autres. C'est pour ça qu'il est dit que les jeunes se soumettent aux anciens, d'accord? Mais il est dit tous, Tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Et voilà le point sur lequel je voudrais appuyer ce matin. On a besoin d'une foi équilibrée, ça commence par avoir de l'humilité. De toute manière, si on veut rentrer, commencer à marcher sur le chemin de la foi, il faut emprunter la voie de l'humilité. Sinon, c'est pas possible. On peut pas garder un cœur orgueilleux et dire qu'on a la foi en Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est bien dit de manière très claire que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a un blocage évident, spirituel, qui se passe quand on a de l'orgueil dans le cœur. Mais Dieu nous invite à avoir cette humilité, à être des personnes qui sont capables de s'abaisser devant lui, qui sont capables de reconnaître leurs torts. L'humilité, c'est la bonne vision de notre petitesse. Est-ce que vous reconnaissez que devant Dieu, vous êtes tout petit ? Ou est-ce que vous pensez que quand vous allez arriver au ciel, vous allez lui apprendre quelque chose au Seigneur, en lui disant « t'as mal fait ceci », lui reprocher quoi que ce soit avec le poing comme ça ? Ça va pas se passer comme ça. Je sais pas comment vous imaginez les choses, mais la parole de Dieu nous dit que tout le monde aura la bouche fermée. Mais parce que nous venons avec un cœur humble, à l'image de Jésus qui a montré ce cœur doux et humble, alors le Seigneur nous accueillera dans son paradis. L'humilité, conjuguée à la grâce de Dieu, ça fait en sorte que on puisse être élevé. C'est ce qu'on a lu, non ? Vous vous souvenez de ce passage ? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Pourquoi est-ce qu'il va le faire ? Parce que Dieu nous aime, Dieu nous est favorable, Dieu veut manifester sa grâce envers nous. Et si nous montrons une bonne attitude de cœur, alors immanquablement, avec la grâce, la faveur qu'il nous accorde, ça va amener une bénédiction pour nous. Au temps convenable. Ça, c'est pour les impatients. Il y en a des impatients ? Il n'y a que moi qui suis impatient. Mais le Seigneur, il précise bien, il marque bien ce qu'il faut dans les versets. Il vous élèvera au temps convenable. Ça veut dire, sois patient aussi. Attends, mais attends de manière humble. Attends de manière convenable, parce que c'est ce que le Seigneur t'appelle. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, si on avait un Dieu rude, un Dieu dur, on aurait beau s'humilier 15 000 fois par jour, il n'y a rien qui se produirait. On serait jamais élevé. Et vous savez ce que c'est l'orgueil ? L'orgueil, c'est de dire « je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie ». L'orgueil, c'est de dire « Dieu n'existe pas ». L'orgueil, c'est de dire « tout ça, c'est pour les faibles ». On entend aujourd'hui des gens qui nous rapportent ça, les philosophes, des grands penseurs qui disent « ah, Dieu, c'est une invention des hommes pour les faibles parce qu'ils ne savent pas s'en sortir par eux-mêmes ». Mais ce n'est pas vrai. Et des grands hommes de Dieu qui ont changé, qui ont influencé même des rois et qui ont fait du bien dans certaines nations, ils étaient capables de s'humilier. Ils étaient capables de reconnaître la puissance de Dieu. Bien sûr qu'il ne faut pas s'humilier à outrance. Bien sûr qu'il ne faut pas dire à chaque fois « oh, je ne suis rien, je ne peux rien faire, je suis trop petit, je suis trop ceci et cela ». Il ne faut pas non plus tomber dans la dévalorisation. Et parfois, on rencontre des gens qui ils sont tellement humbles qu'ils sont trop humbles. Et ils ne saisissent pas que oui, il faut reconnaître sa petitesse, mais oui aussi, il faut reconnaître la puissance de Dieu qui est capable de changer les choses, de se servir de ce qui est tout petit, qui est capable à celui qui est fidèle dans les petites choses, de lui en confier des plus grandes. Ça, c'est notre Dieu. Et on a besoin, encore aujourd'hui, à l'écoute de ces versets-là, d'être des personnes qui marchent dans l'humilité, qui se revêtent donc d'humilité. Vous imaginez, chaque matin, vous vous habillez, mais chaque matin, vous devez aussi revêtir votre cœur d'humilité. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est bien dit dans le verset. Je reconnais ma petitesse, mais je reconnais la puissante main de Dieu. Est-ce que la main de Dieu est puissante ? Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez à la fin du culte à des personnes autour de vous de leur raconter, demandez-leur pourquoi est-ce que la main de Dieu est puissante. Je suis sûr que tout le monde a plein de choses à dire de pourquoi la main de Dieu est puissante dans leur vie. Et Dieu est celui qui agit, Dieu est celui qui œuvre. Et parfois, on voit des gens qui prient, qui prient, qui prient des années et des années, mais qui ne sont pas exaucés. Pourquoi ? Est-ce que Dieu refuse de les exaucer ? Est-ce que Dieu est méchant ? Est-ce que Dieu fait du favoritisme ? Non, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et si on prie, mais qu'on regarde de l'orgueil dans notre vie, si on ne veut pas mettre les choses en règle, ben ça ne va pas avancer dans notre vie. Mais si on fait ce qu'il faut, si on est droit, si on choisit de se soumettre au Seigneur, si on choisit de fléchir le genou devant lui, d'obéir à sa parole et de le laisser transformer notre vie, et il a du boulot. Et si on choisit de faire tout cela, mais le Seigneur va nous montrer sa grâce au travers des prières qui vont être exaucées. La foi équilibrée n'est pas orgueilleuse. Mais il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'humilité, c'est d'accepter à certains moments d'avoir des soucis et de les décharger sur le Seigneur. De dire, je ne suis pas capable de m'en occuper de ces soucis. La seule chose que je peux faire, j'ai essayé de me débattre par moi-même, ça ne marche pas, mais je vais m'en décharger sur le Seigneur. Littéralement, ça veut dire jeter sur Dieu nos soucis, jeter à ses pieds, déposer les armes en disant, je ne peux plus rien faire de tout ça, Seigneur, occupe-t'en. Souvent, on entend les gens qui disent, je vais au culte, je vais décharger mon cœur devant le Seigneur, mais après je reprends mon fardeau en sortant. Mais non, ça c'est pas la façon d'agir du Seigneur. Il nous dit, déchargez-vous, un point c'est tout. Et lui-même va s'occuper de vous. Ne reprenez pas le fardeau que vous avez déposé quand vous venez à l'église ou quand vous prenez un temps devant Dieu. Parce que ça, c'est l'ennemi qui vous trompe. Se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Quand on considère avec nos yeux de la foi la puissance de Dieu, alors c'est quelque chose qui va devenir naturel dans notre vie. Et imaginez que je prenne un carton très lourd, carton rempli de livres, de dictionnaires, tiens. Et je porte ce carton et je vois que j'ai pas la force de le porter totalement. Alors si quelqu'un qui passe dans la rue, il est tout maigrichon, tout petit, et je vois que il aura pas la force, il risque de tomber sous le carton, est-ce que je vais lui demander de l'aide? Et si je vois à côté de lui un rugbyman qui arrive, une armoire à glace, bodybuilder qui arrive, à qui je vais demander de l'aide? Bien sûr, à celui qui paraît avoir beaucoup de force. Parce que quand on montre qu'on a beaucoup de force, ben on n'hésite pas à demander de l'aide. Quand on considère la puissance, la grandeur, la magnificence de Dieu, quand on regarde tout ce que la Bible dit sur la force que le Seigneur déploie quand il s'agit de sauver ses enfants, alors c'est facile de lui demander de l'aide. Mais si on a une vision défigurée de la part de Dieu, si on ne le considère pas tel qu'il est vraiment, si on pense que Dieu est loin, si on pense que Dieu ne s'intéresse pas à nous, si on pense que Dieu est faible, Dieu ne peut rien pour les hommes, il les a créés mais il ne fait plus rien pour eux, on ne va jamais décharger son cœur sur lui. Mais si on n'ose pas jeter sur Dieu nos soucis, c'est parce qu'on ne le voit pas assez grand dans notre vie. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. C'est une prière que l'apôtre Paul a fait. Seigneur, je te prie que les yeux de leur cœur s'ouvrent, s'illuminent, afin qu'ils réalisent la grandeur, la puissance, la majesté de qui tu es vraiment. La main de Dieu est puissante. Il est assez grand pour porter nos soucis. Vous le croyez qu'il est assez grand pour porter vos soucis? Non seulement vos soucis, mais vous avec. Le Seigneur est puissant, il porte toute la terre dans sa main. Donc, vous inquiétez pas si vous le chargez. Certains disent des fois, mais il a tellement d'autres choses à faire avec toutes les personnes qui prient sur la terre. Qu'est-ce qu'il va s'intéresser à moi? Mais non, vous inquiétez pas. Il tient l'univers même dans sa main. Ça vous laisse une idée de la main du Seigneur, combien elle est grande et puissante. Quand il est dit qu'il a sauvé le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte depuis des centaines d'années, la situation était catastrophique d'un point de vue humain. Et pourtant, il est dit que, avec une main puissante et un bras étendu, il a délivré son peuple. Et on sait comment ça s'est passé, ça a été flamboyant. Il fallait pas être à la place des Égyptiens à cette époque. Quoique Dieu même, pour les Égyptiens, il a laissé la grâce, puisque certains des Égyptiens ont accepté quand même sur le montant de leur porte, de mettre du sang. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et ils ont été eux-mêmes épargnés. Dieu fait toujours grâce. Quels que soient les temps, les époques, Dieu fait grâce. Mais il va faire grâce à ceux qui sont humbles. Ça demande de l'humilité pour un Égyptien à l'époque de contrer son pharaon, d'aller à l'encontre de les ordres qui avaient été donnés et de prendre du sang, le sang du sacrifice pour se protéger du jugement. Ça demande de l'humilité aujourd'hui en 2018 pour dire que malgré tous les progrès, toute la technologie, toutes les choses, les avancées que les hommes ont fait, On a encore besoin d'un Dieu qui dirige notre vie. On a encore besoin d'un Dieu qui est le maître de notre vie. On a encore besoin, en 2018, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. On a encore besoin, en 2018, de faire de l'Éternel nos délices. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Parce que c'est ses promesses. Parce que c'est sa parole. Combien c'est bon quand on fait connaître nos soucis. Combien c'est bon de prier. Combien c'est bon de dire au Seigneur ce qu'il y a sur notre cœur. Je lisais un extrait d'un livre qui s'intitule « Médecine et Bible ». Et donc c'est un docteur qui est en train de parler, un docteur qui n'est pas croyant, mais qui raconte une expérience qui l'a touché. C'est qu'il avait lu une étude en 99 sur les effets de la prière chez les patients, qui étaient admis dans les soins intensifs de cardiologie. C'était à l'hôpital de Kansas City, donc aux États-Unis. Et donc le professeur qui a dirigé cette étude, il s'appelait William Harris. Et il a publié donc les résultats dans une revue médicale. Et donc il explique qu'ils ont suivi 990 patients qui étaient en soins intensifs en cardiologie dans l'hôpital. Et ils ont divisé en deux groupes, 466 patients d'un côté, 524 de l'autre. Et tout ça, c'était pourquoi ? Pour montrer les effets de la prière sur les patients. Et donc pour les 466 premiers patients, ils ont donné leur nom, juste les prénoms, pas les noms de famille et tout ça, à des gens qui allaient prier pour eux tout le temps, toutes les semaines. Et ce qui était particulier, c'est que ni les patients, ni les personnels soignants, ni les docteurs ne savaient ça. Il y avait que le docteur qui menait l'étude qui était au courant. Personne ne savait ce qui se passait. Et les autres, donc, ils avaient les soins simplement sans prière. Et les résultats ont été stupéfiants parce que dans le groupe pour lequel on a prié, il y a eu moins de complications, moins d'utilisation de médicaments et une durée d'hospitalisation plus courte, à l'exception de deux patients. Mais tous les autres, les 464 personnes, ont eu des effets bénéfiques plus que les autres qui n'avaient pas de prière. Et ça, c'est un non-croyant qui l'a écrit dans un livre et qui dit justement à la fin, sa conclusion, c'est s'agissant de cette étude, la méthodologie a été parfaitement rigoureuse. C'est les scientifiques, ils aiment bien que ça soit carré. Et nullement critiquable. Il est donc difficile d'apporter une quelconque explication rationnelle à ces résultats. Moi, je confirme, parce que l'explication, elle n'est pas rationnelle, elle est spirituelle. L'Esprit de Dieu y agit quand on décharge sur Dieu nos soucis. Quand on prie pour quelqu'un, c'est ce que l'on fait. Et le Saint-Esprit agit, ce n'est pas nous qui agissons, ce n'est pas notre puissance, mais Dieu veut se servir de nous. Et est-ce que nous allons avoir assez d'humilité pour crier à Dieu et dire « Seigneur, je veux être secouru par toi » ou est-ce que nous allons vivre comme c'est malheureusement ces patients qui n'ont pas été choisis pour qui on prie et qui ont, certes, certains ont été guéris, mais ça a pris plus de temps, plus de médicaments, plus d'inventions humaines. Humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Je ne sais pas si ça vous intéresse que Dieu prenne soin de vous. Mais moi, ça m'intéresse. Je veux faire cette prière. Seigneur, prends soin de ma vie. Mais Dieu ne va pas prendre soin de la vie que l'on ne lui donne pas. Dieu prend soin de la vie que l'on lui donne. Tout ce qu'on garde pour nous, c'est nous qui allons nous en occuper. Tout ce qu'on donne et qu'on abandonne à Dieu, c'est lui qui va s'en occuper. C'est lui qui va changer notre sale caractère en quelque chose de doux, en quelque chose de paisible, en quelque chose de bénissant pour ceux qui nous entourent. C'est Dieu qui va le faire si on accepte de lui livrer. Si on dit « j'ai un sale caractère, c'est comme ça, ça changera jamais. » Dieu, il va faire avec. Ben non. « Seigneur, tu vois mon caractère, oui, il n'est pas terrible, mais je te l'apporte. Change-moi. » Est-ce que vous croyez que c'est un problème pour Dieu de changer les caractères ? Il est capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas un problème. Mais si on vient avec humilité, la puissance de l'humilité, c'est justement que la grâce de Dieu va intervenir pour quelqu'un qui s'humilie. Alors on a tout intérêt à être humble, mais la foi équilibrée, elle est humble, mais elle doit être aussi audacieuse. Vous avez remarqué combien de fois le Seigneur Jésus a dit cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais la foi en question, qu'est-ce qu'elle avait fait faire à la personne? Ben souvent, quand on lit les histoires des évangiles, on se rend compte que c'est pas des gens qui attendaient chez eux que le Seigneur Jésus vienne les chercher pour les guérir, mais la foi qu'ils avaient, c'est une foi audacieuse, courageuse, qui leur a amené à faire des choses même qu'ils auraient peut-être pas dû faire d'un point de vue de l'intelligence. Un lépreux qui traverse la foule pour aller voir le Seigneur. Une femme avec une perte de sang qui va voir le Seigneur aussi. Mais ils avaient une foi audacieuse. Et on s'aperçoit qu'ils avaient les deux. L'humilité, quand ils arrivent aux pieds du Seigneur, ils se jettent à ses pieds, ils se prosternent. Ça, c'est la preuve d'humilité. Mais ils se prosternent pas n'importe où, n'importe comment. C'est devant Jésus. La question qui se pose pour chacun de nous, c'est devant quoi est-ce que nous nous prosternons? Oh, mais non, on se prosterne plus aujourd'hui. Oui, mais je parle pas physiquement, je parle dans notre cœur. Qu'est-ce qui est notre Dieu? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? On pourrait multiplier les exemples, mais c'est tellement important de réaliser que la foi audacieuse, elle va vers le Seigneur Jésus. Et la foi humble, elle se prosterne devant le Seigneur Jésus. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent des bonnes excuses pour ne pas venir vers le Seigneur. Ou ne pas lui obéir. Sa parole dit ceci, mais on trouve une bonne excuse. Oui, Dieu dit ça, mais voilà, moi, ceci, pour l'instant, dans ma vie, je ne peux pas, ou ceci, ou cela. Mais vous savez que ça sert à rien de donner des excuses au Seigneur, il connaît nos cœurs. Et il sait ce qui est bon pour nous. Et même si on lui donne la meilleure des excuses d'un point de vue humain, il sait que c'est pas, si c'est pas bon, c'est pas bon. Sa parole, elle est claire, nette, précise. Et il faut pas négocier avec le Seigneur, ça ne marche pas. Quand vous voyez justement un homme qui avait l'habitude de négocier avec Dieu, Jacob, vous apercevez que dans sa vie, il a eu des moments très difficiles. Et les moments où ça a été bien dans sa vie, c'est quand il, à nouveau, il a fait confiance à Dieu à 100%. Mais quand il a essayé de s'en sortir par soi-même en sortant toutes sortes d'excuses avec Dieu et en essayant de négocier, ça a été compliqué pour lui. Mais quand on fait confiance au Seigneur, ça vaut la peine parce que le Seigneur, il intervient en notre faveur. La foi audacieuse, la foi qui ne laisse pas la peur, qui ne laisse pas l'inquiétude, qui ne laisse pas les choses qu'on fait, la routine, qui ne laisse pas tout ça empêcher de venir vers le Seigneur, mais qui franchit les obstacles, qui passe par-dessus, parce qu'elle sait que le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être auprès du Seigneur. Ce matin, vous êtes dans l'église, c'est bien, mais on a tous intérêt à être près du Seigneur. Ça, c'est encore mieux. Et on peut être à l'église tous les dimanches et ne pas être du Seigneur, ne pas être près du Seigneur, être même loin du Seigneur. Parce que c'est pas une position physique, c'est une position spirituelle. Le Seigneur nous invite à avoir cette foi audacieuse, à avoir cette violence. On a parlé, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, les violents envers eux-mêmes, pas envers les gens, pas ceux qui distribuent des coups de poing, mais c'est ceux qui se font violence pour marcher dans les voies de Dieu. Alors le Seigneur va manifester sa grâce. Il y a un homme qui était un évêque britannique, anglican, mais qui a entendu parler du protestantisme et de toutes ces doctrines-là et qui a commencé à être convaincu, lui qui prêchait contre ça parce qu'il connaissait pas tout à fait ce qui était dit, en parlant avec un pasteur, il a été convaincu dans son cœur. Et cet homme, c'est Hugh Latimer, et il était en plus chapelain du roi, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait de prêcher dans la chapelle du roi, Henri VIII, en Grande-Bretagne. Et un jour, le roi, donc, il était très, très, très mécontent parce que cet homme, depuis qu'il avait entendu ces nouvelles doctrines et que ça avait touché son cœur, les justes interprétations de la parole de Dieu, cet homme, il a commencé à dire les choses de manière claire. Avant, il essayait de caresser le roi dans le sens du poil. Il avait tout intérêt. Il était le chapelain du roi. Et donc, il risquait gros. Mais là, un jour, il a prêché, il a remis les choses en question, il a souligné les mauvaises attitudes. Et le roi, il était furieux parce qu'il s'est dit, mais quand même, moi je suis le roi, et pour qui il se prend celui-là? Alors il a ordonné à Latimer de prêcher de nouveau le dimanche suivant, mais en s'excusant de tout ce qu'il avait dit la veille, la semaine d'avant. De s'excuser, de demander pardon pour les offenses et pour tout ce qu'il avait dit. Alors le dimanche suivant, après avoir lu le texte biblique, Hugh Latimer, il commence son serment ainsi. Il se parle à lui-même. Hugh Latimer, savez-vous devant qui vous êtes aujourd'hui pour parler? Devant le souverain grand et puissant qui a le pouvoir de vous ôter la vie. Par conséquent, prenez garde à ne pas dire une parole qui pourrait lui déplaire. Toutefois, Hugh Latimer, ne perds pas de vue que tu es ici le messager du Dieu tout-puissant qui est présent, qui sonde toutes tes voies et qui est capable de jeter ton âme en enfer. Alors prends soin de délivrer fidèlement ton message. Et donc, il a répété exactement le même message que la semaine d'avant. Et à la fin, le roi, il était furieux à nouveau. Il a dit, mais comment est-ce que tu as pu faire cela? Comment est-ce que tu as pu redire ces paroles? » Et donc, il dit ceci: « Sire, j'ai fait ce que je devais vis-à-vis de mon Dieu et vis-à-vis de mon roi. Ma conscience ne me reproche rien. » Alors Henri VIII se leva et lui prit la main en disant: « Béni soit Dieu de m'avoir donné un serviteur aussi fidèle. » Quand on est audacieux et quand on choisit d'obéir à Dieu malgré les circonstances, le Seigneur nous bénit. Alors, vous savez que la suite, elle est moins glorieuse humainement, parce que c'est un homme qui a été persécuté, qui a été longtemps dans la tour de Londres, emprisonné à cause de sa foi. Mais, devant Dieu, il n'avait rien à se reprocher. La question qui se pose, est-ce qu'il vaut mieux plaire aux hommes ou à Dieu? C'est Pierre lui-même, on vient de lire une lettre de Pierre, mais c'est Pierre lui-même qui avait dit cette parole. Trouvez-vous juste d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Si les hommes vous disent d'aller dans cette voie et que Dieu vous dit d'aller dans une autre, qu'est-ce qui est le plus juste de faire? Bien sûr, c'est d'obéir à Dieu. L'audace de la foi, c'est de passer par-dessus tout cela et de faire en sorte que le beau message de Jésus-Christ soit prêché. Soyez sobre, soyez équilibré, mais cet équilibre nous amène à être dans la vigilance, veillez parce qu'il y a un adversaire, le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas au diable, ne croient pas ni au diable ni en Dieu. Mais autant en Dieu, c'est déjà quelque chose, un grand problème, mais ne pas croire au diable, c'est encore plus grave parce que c'est un ennemi qui nous veut du mal. Si vous avez un ennemi qui vous veut du mal et que vous faites toujours comme s'il n'existe pas, et vous risquez un jour de vous faire très mal. Il risque de vous faire très mal. Parce que lui vous attendra au détour de la rue et sera prêt à vous faire toutes sortes de choses difficiles. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Et si on n'a pas cette vigilance, si on n'est pas dans cette prière qui veille aussi, dans cette foi qui est ardente pour le Seigneur, cette foi qui est audacieuse et qui prie, qui dit: Seigneur, donne-moi du discernement, donne-moi la force de voir aussi, Seigneur, tout ce qui se passe autour de moi, de voir les stratégies du diable, non seulement pour moi, mais pour les personnes qui sont autour de nous. Vous inquiétez pas, si le diable vous laisse tranquille, il va embêter les personnes qui sont autour de vous. Et peut-être pour vous toucher à vous, il va faire du mal à ceux que vous aimez le plus, parce que son désir, c'est de détruire, son désir, c'est de déchirer. La paix que Dieu donne, il veut la voler, il veut enlever tout ce que Dieu veut vous donner. Mais si nous veillons, si nous avons cette attention renforcée, si nous avons ce désir de plaire au Seigneur en toutes circonstances, alors le Seigneur va nous pourvoir tout ce qu'il faut. Est-ce que vous demandez à Dieu le discernement pour que dans les situations vous sachiez comment réagir? C'est tellement bon quand on a une discussion particulière, délicate, et qu'on ne sait pas quoi dire, qu'on demande l'aide au Seigneur. Il nous donne les mots par son Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous a promis. C'est tellement bon quand on a un rendez-vous important pour notre vie ordinaire, mais de remettre ça entre les mains du Seigneur. Et de demander: Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est pas l'ennemi qui voudrait me jouer un tour pour que je m'écarte sur une autre voie? Je sais pas comment vous faites. Mais c'est bon de présenter nos vies au Seigneur et de le laisser nous diriger. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que Dieu va faire les choses dans nos vies qui, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, parce qu'il nous aime. Dans la vie de Pierre, on voit qu'il y a eu plusieurs sessions qui nous montrent justement qu'il avait un cœur d'humilité, mais aussi un cœur audacieux. À un moment donné, quand Pierre avait pêché toute la nuit sans rien prendre, le Seigneur Jésus lui dit: retourne en pleine eau, va jeter les filets. Seigneur, on a pêché toute la nuit, on est fatigué, on n'en peut plus. Mais l'audace de Pierre lui a fait dire cette parole: mais sur ta parole, je jetterai les filets. Le monde nous fait croire qu'il faut aller dans ce sens et qu'on est fatigué, on n'arrivera jamais. Mais Jésus nous dit qu'il nous donne la force pour faire certaines choses. C'est lui qui nous la donne, c'est sa parole qui nous la communique. Et si nous obéissons, si nous avons cette foi audacieuse, eh bien le Seigneur va accomplir un miracle. Le miracle pour un pêcheur, ça a été d'avoir deux barques remplies de plein de poissons qui étaient en train d'enfoncer sous les eaux. C'était quelque chose de très, très naturel. Mais c'est arrivé parce qu'un homme a choisi d'avoir cette foi audacieuse envers Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il ne s'est pas glorifié en disant: je suis un homme de Dieu maintenant. Dieu se sert de moi, je suis puissant. C'est pas ça qu'il a fait Pierre. Il est tombé aux pieds du Seigneur. L'audace de sa foi a été récompensée, mais il tombe aux pieds du Seigneur. L'humilité l'amène à genoux, à dire « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » L'humilité, c'est accepter de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Ce matin, est-ce que vous êtes prêt à avoir cette humilité-là? Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais vous savez que c'est bon de laisser le Seigneur nous montrer par son Saint-Esprit que nous sommes des pécheurs. Mais à qui il veut faire grâce et qu'il veut faire marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Et Pierre a dit cette parole, « Je suis un homme pécheur, retire-toi de moi !» Alors là, il est allé trop loin dans l'humilité parce qu'il a dit, « Seigneur, je suis tellement pécheur qu'il faut que tu t'éloignes. » Oui, mais Jésus, il est venu sauver, libérer, laver les pécheurs et les utiliser pour sa gloire. C'est pour ça que Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras un pécheur d'homme. Je vais t'utiliser à mon service. Tu vas être quelqu'un qui est envoyé de ma part, quelqu'un qui va amener la bénédiction. Oui, tu es un pécheur, mais tu vas devenir une source de bénédiction et de sainteté pour les autres parce que tu seras envoyé par moi. » Et Dieu veut faire de même envers nous. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, ça demandait de l'audace de passer par-dessus la barque, de lever le pied et de mettre le pied sur l'eau. Je ne sais pas si tout le monde en l'aurait fait, mais il a eu cette audace. Pourquoi ? Parce que il a demandé, « Seigneur, si c'est toi, ordonne, donne cet ordre, et je m'appuierai sur cet ordre, que je marche vers toi. » Souvent, on voit des gens qui essayent de faire des miracles sans avoir reçu de parole. Ça ne marche pas. Mais quand Dieu nous donne une conviction que c'est sa parole, c'est sa vérité, alors on peut marcher sur les eaux, on peut faire des choses qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes parce que c'est la parole de Dieu. Mais combien on a besoin d'être vigilant et discerner que c'est la parole de Dieu. Et cet homme a pris son courage de main, il a enjambé la barque et il a commencé à marcher sur les eaux. Sauf que c'est un être humain comme nous tous qui a manqué de foi en voyant la tempête. Il a commencé à s'enfoncer, se noyer. Et là, c'est son humilité qui lui a dit « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, au secours, je ne peux pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Alors, Seigneur, sauve-moi. Voyez combien c'est important d'avoir cette humilité. C'est important d'avoir cette audace. Parce que c'est là que nous voyons des belles choses avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes satisfait d'une vie chrétienne où on ne voit rien, où on ne voit pas de miracle, où on ne voit pas de prière exaucée, où on vient de manière bien religieuse le dimanche. Mais moi, c'est pas ce genre de vie de chrétien que je veux. Je veux la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tout ce que le Seigneur a promis, mais Dieu va nous le donner si nous avons un cœur d'humilité et si nous avons de l'audace. Cette semaine, c'est Odile, qui je crois qu'elle est derrière, qui nous racontait que sa fille devait être opérée du genou et ils ont prié parce que c'était une opération délicate. Et ils ont prié. Et on a appris après une radio qu'elle n'avait plus rien du tout par rapport à l'opération. Elle n'avait plus besoin de se faire opérer parce qu'elle n'avait plus de problème au genou. Parce que la prière en un Dieu puissant est efficace. La prière audacieuse, la prière qui dit « Seigneur, c'est toi qui as fait la promesse. Alors, je t'en prie, interviens en notre faveur. » Et le Seigneur est capable de guérir, le Seigneur est capable de secourir parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Ayons une foi équilibrée, frères et sœurs. Humilions-nous devant Dieu. Ce matin-là, à l'écoute de ce message, et croyez-moi que j'ai été le premier à le faire ce matin, parce que j'avais cette parole sur le cœur, mais humilions-nous devant Dieu. Et voyons de quelle manière il va nous élever. Et saisissons par la foi les promesses qu'il nous a données. Vous les connaissez les promesses du Seigneur? Elles sont oui et amen. Elles sont sûres et certaines. Elles sont vraies, les promesses de Dieu. Et souvent, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas, parce que nous n'avons pas cette audace de la foi qui s'empare des promesses que Dieu nous a données. Mais nous voulons le faire avec simplicité, avec humilité et avec audace. Que le nom du Seigneur soit béni.